M'a amené à la sociologie. Alors c'est un peu un hasard parce qu'avant je faisais de la littérature. J'ai fait un master de littérature et j'étais spécialisée dans l'étude de Zola. Mais Zola c'est un ethnographe en fait. Quelque part j'avais étudié la place des femmes dans la littérature chez Zola et notamment dans Au bonheur des dames. Donc sur la naissance des grands magasins. Donc j'avais déjà cette question de la grande distribution, des grands magasins, du capitalisme qui me travaillait et en filigrane la question des inégalités hommes-femmes, la manière dont c'était traité par Zola en tout cas. Ce qui me manquait c'était une approche de terrain, un peu concrète, un peu ethnographique. Et j'avais envie d'aller voir pas seulement ce qui se passait dans les livres, mais aussi sur le terrain. Et donc j'ai entamé des études de sociaux comme ça. Et c'est ce qui m'a amené à la sociologie, vraiment l'envie de rencontrer les gens et d'aller voir ce qui se passait concrètement.
Bonjour Audrey Voile, docteur en sociologie, auteur de La Fabrique des masculinités. Livre paru aux éditions La Découverte, et l'invité de La Perle à rebours, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Est-ce que tu te considères comme une chercheuse engagée? C'est suggéré aussi dans ta conclusion.
C'était pas vraiment voulu au début, en tout cas c'était pas pensé comme ça, et la réalité de ce que j'ai vu sur le terrain, la réalité à laquelle j'étais confrontée aussi en tant que femme, en travaillant dans un milieu masculin, m'a conduite à peut-être avoir des positions un peu plus affirmées. Et c'est vrai que par rapport à ma thèse, le livre a une écriture plus politique, plus acérée. En tout cas, dans la conclusion, je pense que tu l'as un peu senti, j'avais vraiment envie d'appuyer le trait sur ce qui cloche et sur ce que j'ai envie de faire et de montrer ce qu'il est possible de faire. Et je me souviens que j'avais lu ça une fois dans Flaubert qui disait ça à George Sand dans une de ses correspondances. Il disait « D'écrire nous venge ». C'est un peu cette idée que j'avais en tête dans le livre, c'est vraiment d'écrire la réalité des choses qui est parfois brutale pour plein de femmes, pour certains hommes aussi, mais pour plein de femmes. C'est le préalable pour changer les choses en fait et pour avoir peut-être une société plus progressiste.
C'est la réécriture de ta thèse ?
Oui, exactement. J'ai tout réécrit la thèse, donc j'ai vraiment renversé le raisonnement, parce que ma thèse, je décrivais le terrain, puis je montais en généralité pour en tirer des enseignements sociologiques. Et là, je pars vraiment d'une théorie sociologique, d'une théorie qui lie le capitalisme et la domination masculine, que j'illustre avec des exemples de terrain, pour que ce soit un peu plus percutant.
Et le titre de ta thèse ?
Le titre de ma thèse, c'était « Les hommes en bleu ». Parce que dans l'entreprise que j'ai étudiée, il y avait 80% d'ouvriers, donc c'est des gens qui portaient des bleus de travail. Et aussi parce que c'est un milieu où on travaille dans le froid, donc le froid, c'est le bleu, etc.
Ton terrain d'expérimentation, d'observation, c'était une grosse société.
Si je vous décris le logo, vous voyez les camions sur les routes tous les jours.
Pourquoi pas avoir gardé le nom ?
Parce que contractuellement, en fait, j'avais une obligation d'anonymiser les choses. Et puis après, je me suis dit, bon, ça sert à rien d'exposer aussi les gens, parce que je fais des portraits assez précis dans le bouquin.
Le titre de l'essai, c'est La Fabrique des masculinités au travail, c'est l'éditeur qui a posé le titre ?
Non, on a réfléchi ensemble à ce titre. En fait, l'idée principale du bouquin, c'est vraiment de montrer que le monde du travail, le capitalisme et la domination masculine, la masculinité, ça se co-construit comme un serpent qui se mord la queue, ça s'alimente. Et donc, on s'est dit que la fabrique, ça sonnait bien pour montrer que justement, le travail, la masculinité, en tout cas, se fabrique au travail, et inversement, que le travail nourrit la masculinité. Et donc, en plus, comme ça se passait souvent dans les entrepôts, dans les usines, etc., voilà, il y avait cet écho fait à la fabrique, la fabrication.
Sauf que, élément critique sur le titre, c'est pas la masculinité, c'est des masculinités, ouais. Il y en a plusieurs, et les masculinités sont fabriquées aussi ailleurs et en amont. Mmh. J'ai pas réussi à trouver un titre qui donne à la fois le propos de l'étude et qui aussi induit le fait que c'est une continuité.
Alors ça, peut-être que le titre de la première partie est plus pertinent, ça s'appelle L'art de durer. Voilà, j'essayais de montrer justement cette continuité de la domination masculine dans le temps, mais c'est vrai que la fabrique des masculinités, elle ne se fait pas que au travail. Alors c'est pas l'objet de mon bouquin, donc j'y ai pas trop insisté sur ce préalable, sur cette question, mais la socialisation des garçons aussi est cruciale dans la fabrique des masculinités, et j'essaye de montrer que le travail c'est un autre endroit où se fabrique cette masculinité, c'est un endroit parmi d'autres, et voilà, mais la socialisation bien sûr, les collectifs masculins, l'entre-soi, les boys clubs, tout ça, ça participe aussi de la fabrique des masculinités.
Je dis ça parce que, en conclusion, tu pointes sur l'idée que c'est une idée nouvelle en développant ce concept.
Je pense que mon apport principal dans ce bouquin, c'est surtout de dire Alors, ça a déjà été pensé par des sociologues, c'est juste que ça a été assez peu théorisé, bizarrement, alors que le travail, c'est quand même un endroit de socialisation assez fort pour les hommes, un endroit où se crée une identité masculine assez fort. Pour autant, il n'y a pas encore eu trop d'ouvrages sur la question, en tout cas en France, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, un peu plus. En revanche, là où j'ai peut-être un apport sur cette question, c'est que j'ai essayé de montrer la manière dont se perpétue cette domination masculine au travail. C'est justement parce qu'elle se transforme. Et ça, c'est l'idée centrale de mon bouquin, de dire que la condition du maintien du patriarcat, c'est sa transformation sous des formes renouvelées. Comme le capitalisme, ça se transforme en permanence.
En notant une dissonance entre un discours et puis la réalité.
C'est vraiment quelque chose qui a conduit toute mon enquête, c'est ce paradoxe entre le fait que les hommes se disent pour l'égalité professionnelle. J'ai jamais rencontré d'hommes qui m'ont dit que les femmes devraient être à la maison, etc. Ça, en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. On m'a embauchée pour travailler sur cette question des inégalités professionnelles, il y a des lois, etc. Et pourtant, ça coince encore. Il y a encore des inégalités salariales. Tous les jours, on voit dans les journaux des affaires de harcèlement, de violences sexuelles, etc. Les grandes entreprises sont encore dirigées par des hommes, et donc je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça tient encore? Et une des raisons qui fait que ça tient, c'est justement parce qu'il y a une dichotomie entre les discours et les pratiques. Il y a plein d'hommes qui me disaient être pour l'égalité, et en fait, dans les pratiques, ils coupaient la parole aux femmes sans arrêt, ils proposaient jamais de prendre des notes, ils rigolaient à des blagues sexistes, sans reprendre leurs collègues qui avaient fait ces blagues sexistes parce qu'ils voulaient pas créer de conflit avec leurs collègues. C'est des petites choses comme ça, mais qui, mises bout à bout, en fait, entretiennent l'idée que le monde du travail est fait par les hommes pour les hommes.
La masculinité n'est pas synonyme de virilité.
Ça a été un de mes premiers travaux dans cette enquête, ça a été d'essayer de comprendre quelle était la différence entre masculinité et virilité. Moi, j'arrivais pas à faire la différence. Et dans les travaux que je lisais, les deux souvent étaient confondus. Or, ce que je voyais sur le terrain, c'est que tous les hommes ne sont pas virils. Donc il y avait forcément une différence entre les deux. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la virilité, c'est un idéal. C'est un idéal de force, de courage, de performance, de violence, d'autorité, qui ne peut pas être incarné par tous les hommes. Et c'est pour ça qu'on parle de masculinité au pluriel, parce qu'il y a plusieurs façons d'être un homme, et tous les hommes ne sont pas virils. Donc c'est pour ça que la masculinité est au pluriel. Alors que la virilité, elle est au singulier, parce que c'est un idéal. Et il n'y a pas de pendant à la virilité. La virilité, c'est voilà, un idéal masculin, ce qui nous empêche de penser que peut-être que aussi les femmes peuvent être viriles. C'est Virginie Despentes qui propose cette idée de dire que les femmes peuvent être viriles, c'est-à-dire des femmes performantes, autoritaires, violentes. Ne pas le penser, ça révèle aussi la mécanique du sexisme.
Tu définis ou sont définis trois traits fondateurs de la masculinité: l'attachement, la division sexuelle du travail, la valeur accordée à la force physique ou psychologique, un rapport distancié au féminin et aux masculinités subordonnées et ou marginalisé. C'est page
228. Page 228, donc dans la conclusion. Alors effectivement, la masculinité, je l'ai définie un peu par défaut, c'est-à-dire que la masculinité, c'est ce que n'est pas la féminité. Donc y a être un homme, c'est vraiment ne pas être une femme. Et donc il y a une certaine forme de mise à distance de tout ce qui peut apparaître féminin. Et souvent, ça se fait soit sous forme de blague, soit sous forme d'insulte, voilà, de dire « Ah, fais pas ta femmelette, fais pas ta tapette, fais pas ta tafiole ». Ce qui en dit beaucoup aussi sur l'homosexualité, non seulement sur la vision du féminin qu'on a, mais aussi sur l'homosexualité. Et c'est vrai que la question de l'homosexualité, je l'ai assez peu croisée dans mon enquête, ce qui est un indice en soi, en fait, parce qu'il y avait forcément des hommes homosexuels dans cette entreprise de 12 000 salariés. Mais jamais je n'ai rencontré un homme qui me l'a dit. Enfin, toutes les études sur les masculinités s'accordent à dire que l'homosexualité, c'est une forme de masculinité qui est souvent marginalisée par rapport à la masculinité hégémonique, parce qu'elle serait supposément pas assez virile. C'est vrai que la masculinité, c'est quand même encore très ancré sur des stéréotypes de force, d'endurance, de courage, d'abnégation dans l'effort. Et je fais un parallèle à un moment donné dans le bouquin sur le sport et la masculinité. Le sport, c'est un concentré de valeurs qui résonne très bien aussi avec le monde de l'entreprise. Tout ce qui est performance, endurance, dépassement de soi, dépasser les objectifs du jour, etc. C'est souvent un exemple qui est donné. dans l'entreprise mais ailleurs. Et c'est pas pour rien que les entreprises investissent aussi dans les compétitions sportives, parce que c'est des formes d'exemple de la bonne tenue ou de l'ascétisme dont il faudrait faire preuve pour être performant au travail.
L'esprit de compétition.
C'est ça, la compétitivité bien sûr. Parce que le but de toute entreprise, bien sûr, c'est de faire du profit. Et pour faire du profit, il faut être pérenne. Et pour être pérenne, il faut faire du profit. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et donc, pour être pérenne, il faut aussi être le leader. Et donc, on est dans une forme de compétition permanente. Les organisations sont dans une compétition permanente pour être leader sur un marché. Et en fait, il en va des organisations comme des hommes. Voilà, pour perdurer, il faut toujours à la fois innover, mais aussi rester leader, être cool, innovant, performant, etc.
Idéal de performance, d'autorité, de dépassement de soi et d'endurance qui trouve son expression à travers des démonstrations corporelles et ou verbales d'aptitude au combat et à la violence.
C'est ma définition de la virilité.
Donc vous avez reconnu votre définition.
Oh, ouf! J'étais embauchée dans cette entreprise pendant 3 ans, à la fois pour travailler les questions d'égalité professionnelle, mais aussi pour faire mon enquête. Et alors, pourquoi est-ce que la question de la virilité m'a intéressée tout particulièrement? C'était parce que j'étais fortement entravée dans les missions qui m'étaient confiées, c'est-à-dire m'occuper de l'égalité professionnelle. Je me suis rendu compte qu'au final, ça intéressait pas grand monde au-delà des obligations légales. Mais aussi, pour revenir sur la définition de la virilité que tu viens de citer, je me suis rendu compte que les valeurs viriles, donc endurance, performance, être leader, violence, autorité, etc., ça s'accordait à merveille avec un environnement capitaliste qui fonctionne sur les mêmes valeurs et qui demande justement aux salariés, aux gens qui travaillent dans les entreprises, d'adopter ces mêmes valeurs. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un certain continuum entre les valeurs viriles et les valeurs capitalistes, qui fait que c'est une des manières d'assurer aussi la domination masculine, puisque le capitalisme se nourrit de la domination masculine et inversement.
Mais là, dans ce type d'entreprise où il y a de la manutention,
ouais,
on pourrait se dire qu'il y a peut-être aussi une ergonomie à réfléchir pour faire en sorte que tous les postes puissent être offerts à l'ensemble du personnel, qu'ils soient masculins ou féminins, mais ce n'est pas une entreprise qui, a priori, très attirante pour les femmes.
Oui, alors effectivement, c'est une entreprise de logistique, il y a peu de femmes, il y a environ 18% de femmes, mais en fait, je me suis rendu compte, donc c'était l'idée que j'avais aussi moi, au départ, de me dire que voilà, la force, en tout cas la force physique, pouvait être un obstacle à l'intégration de femmes, et en fait, je me suis rendu compte que sur les postes les plus physiques, donc les postes de manutention, de colis, il y avait plus de femmes que sur d'autres postes qui étaient moins physiques. Donc finalement, la question de la force physique, elle était toute relative, et notamment sur les postes de conducteur routier, où autrefois c'était un métier de force, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque il y a un certain nombre de tâches qui sont automatisées, il y a 0,1% de femmes, il y a très peu de femmes, et du coup, c'est pas du tout la nécessité d'avoir de la force physique qui justifie l'exclusion des femmes. Donc qu'est-ce qui fait que les femmes ne sont pas présentes dans ce métier? En fait, comme dans tous les métiers corporatistes, que ce soit les médecins, les avocats, les chauffeurs routiers, quand il y a une forte corporation comme ça, masculine, le corporatisme empêche les femmes d'intégrer ces milieux, parce qu'il y a vraiment l'idée que de féminiser ces métiers-là, ça va dévaloriser les métiers. Il y a vraiment féminisation égale dévalorisation. Il y a cette idée-là qui court toujours. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une forte résistance des hommes à l'entrée des femmes dans ces milieux. Et que du coup, la force, c'est un argument, mais ça ne justifie pas forcément l'exclusion des femmes.
Ça dépend de l'endroit où la femme se trouve, c'est-à-dire dans les bureaux.
En fait, j'avais vraiment à cœur de faire une enquête nuancée et pas trop manichéenne. Parce que la domination masculine, elle est assez ambivalente, je trouve. On imagine comme ça souvent que la domination masculine, c'est très homogène. C'est un groupe d'hommes qui domine des femmes. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait une enquête dans une seule entreprise pour montrer cette subtilité, à la fois en étudiant des cadres, mais aussi en étudiant des ouvriers, en étudiant les hommes, en étudiant les femmes, etc. Donc j'ai croisé plein de données. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré pas mal de femmes qui étaient bien à leur poste. Et ça m'a pas mal interrogée parce que moi-même, je l'étais pas forcément. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, elles trouvent des formes de satisfaction dans ce milieu masculin? Et en fait, il y a plein de raisons. Alors ça peut être des femmes qui, par exemple, ont connu la précarité de longue durée et qui sont contentes de retrouver un emploi dans des bassins d'emploi qui sont très pauvres en emploi, ou alors dans des bassins d'emploi où la seule possibilité qu'elles ont, c'est de travailler à l'abattoir. Et ben, au choix du pire, en fait, tout est relatif. Et puis, souvent, les femmes qui sont dans des métiers dits féminins, par exemple le secrétariat ou les RH, etc., elles sont dans des postes où elles sont attendues, où leurs qualités féminines, entre guillemets, sont attendues. Et donc, finalement, elles sont assez valorisées pour ces qualités féminines qu'elles représentent. Et donc, elles sont plutôt heureuses d'être dans ces postes-là, parce que aussi elles ont intériorisé ces stéréotypes féminins. Et donc, elles ne se disent pas harcelées en tant que femmes. Elles trouve une place tout à fait satisfaisante et épanouissante.
Tu as été surprise de ne plus observer systématiquement des pin-ups dans les cabines des camions ?
Oui, ça c'est un gros cliché que j'avais aussi sur les calendriers dans les camions ou dans les vestiaires des chauffeurs. C'est un truc qui existait vraiment. Mon père était chauffeur routier, donc quand j'allais avec lui parfois dans les vestiaires ou sur les quais des entrepôts, c'est des choses que je voyais, quoi. Et dans mon enquête, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens, parce que c'est un monde où il y a des carrières d'autodidactes quand même qui sont importantes. En fait, le monde du transport a changé, selon leur dire, et c'est vrai que moi je l'ai constaté, effectivement. Il y a quelque chose qui a changé, et pourtant ça coince encore. Et donc c'est ce que je suis allée chercher. C'est la question que je me suis posée, de dire ok, ça a changé, mais en fait pas tant que ça. Et pourquoi ça a pas tant que ça changé? C'est pas parce qu'en fait on va enlever les calendriers de femmes à poil dans les vestiaires qu'on va pas considérer la femme comme inférieure professionnellement.
Ça s'est invisibilisé.
Exactement, c'est devenu un peu plus pernicieux, et donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps continuer en tout cas à faire des enquêtes de terrain, renouveler les enquêtes, parce que la domination masculine, je trouve aujourd'hui, comme c'est plus politiquement correct de dire que les femmes sont inférieures aux hommes, etc., et ben ça s'exprime différemment. Et c'est là où il faut aller traquer vraiment les inégalités ou le sexisme ordinaire, parce que ça se loge dans des petites nuances, dans des choses auxquelles on fait pas forcément attention. Et moi, ce que j'adore observer, c'est les réunions de travail. C'est vraiment ma partie préférée des enquêtes. Je me mets dans un coin, je regarde ce qui se passe dans une réunion de travail. Il y a toujours un homme qui va couper la parole à une femme. Il y a toujours une femme qui est experte sur un sujet, qui va se taire parce qu'elle n'a pas la place pour s'exprimer. Et ça ne rate jamais.
Qui n'a pas la place ou qui n'ose pas prendre cette place, comme si elle se conditionnait.
C'est vrai qu'on a éduqué les femmes aussi pour la retenue et pour ne pas oser demander une augmentation de salaire, ne pas oser demander, ne pas assumer en fait la valeur qu'elles ont, alors que les hommes sont beaucoup plus confiants dans ce qu'ils disent parce qu'ils ont été aussi socialisés de cette manière-là. Et donc ça fait un curieux mélange de femmes qui n'osent pas s'exprimer ou d'hommes qui prennent la parole sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas forcément experts. Mais c'est vrai que c'est aussi un reproche qu'on fait beaucoup aux femmes de ne pas oser, et j'aime pas trop ce reproche parce qu'on fait peser sur les femmes la charge de rétablir les inégalités, alors qu'en fait il faudrait aussi que les hommes s'interrogent sur la place qu'ils ont, sur la manière dont ils interagissent, plutôt que de laisser aux femmes la charge de se battre en permanence pour réclamer ce qui devrait leur être dû, voilà, de base.
Je reviens sur l'entreprise, qui est une entreprise au départ familiale, patriarcale. Au tout début, il devait y avoir que des hommes principalement.
Alors c'est une entreprise qui a été construite par des hommes. Pour des hommes, tu l'as dit, c'est une entreprise familiale au départ, qui l'est toujours puisque le fondateur a laissé les rênes de l'entreprise aujourd'hui à son fils. Donc il y a vraiment une transmission comme ça de père en fils, et on voit dans l'histoire de l'entreprise plein de filiations qui se sont créées. Et quand on observe les locaux, il y a toujours une mémoire sexuée qu'on peut observer parce que voilà, il y a plein d'entrepôts aujourd'hui qui n'ont pas de vestiaire ou de toilettes pour les femmes. C'est aujourd'hui des obligations légales normalement. Mais il y a tellement peu de femmes que pour un certain nombre de directeurs d'entrepôts, ça ne justifie pas un investissement dans ce sens parce que il y a une ou deux femmes dans l'entrepôt, donc ça coûterait trop cher en fait de faire des sanitaires mixtes ou de faire des vestiaires pour si peu de personnel, ce qui fait que ça n'encourage pas non plus la mixité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça change, en fait c'est une idée sur laquelle je voudrais revenir, c'est que en fait la manière dont l'entreprise a évolué, parce que j'ai aussi étudié les archives, j'ai beaucoup interrogé les anciens pour voir comment l'entreprise avait évolué, et là moi j'ai repris un peu une idée de Boltanski et Chiappello dans le nouvel esprit du capitalisme, qui dit que en fait le capitalisme, si le capitalisme perdure aujourd'hui, c'est parce qu'en fait il intègre à son fonctionnement les critiques qui lui sont faites, donc l'hyperproductivisme, la mondialisation, le fait d'être polluant, etc. Le capitalisme des années 90, aujourd'hui, il pourrait pas exister tel qu'il était à l'époque. Voilà, on est sur quelque chose de consommé local, une forme de décroissance, etc. Et puis, la domination masculine, ça fonctionne exactement pareil. J'ai essayé de faire une analogie, un parallèle entre les deux. Si la domination masculine fonctionne, c'est parce que, en fait, elle se transforme en permanence. C'est vrai qu'on a des lois aujourd'hui pour l'égalité professionnelle et les entreprises se montrent volontaires parce que c'est des obligations légales, et notamment faire des bâtiments qui sont supposément mixtes, mais dans les faits, parce que les gens ne sont pas formés, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, ils ne vont pas forcément mettre en place les mesures derrière pour avoir plus de mixité. Dans l'entreprise, il y avait avait plein de panneaux où étaient affichées des photos de rugby avec des messages comme ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ensemble on est plus fort. Donc ce genre de message qui était destiné à guider un peu les valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que l'obsession pour la preuve virile n'a pas disparu. Même si elle se manifeste différemment, ça n'a pas disparu.
Rien n'est acquis.
Oui, rien n'est acquis. Et c'est précisément pour ça que ça tient, en fait. C'est parce qu'il y a quand même une menace de chômage, de précarité. Voilà, on est quand même dans un monde où on peut se faire virer si on fait une faute ou si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, etc. Donc il y a quand même une forme d'engagement qui est requise et qui est importante. Mais c'est vrai que l'engagement dans une entreprise, il n'est pas juste monétaire. Il ne se fait pas non plus simplement sans contrepartie. J'ai essayé de nuancer un peu aussi cette idée que les salariés seraient vraiment absolument contraints par juste la raison économique, parce qu'en fait, il y a des parcours dans l'entreprise de carrière ascensionnelle qui étaient assez bluffants, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste quand même une référence, parce qu'aujourd'hui, les patrons de l'entreprise sont des gens qui ont commencé, alors je ne vais pas dire en bas de l'échelle, mais en tout cas qui ont commencé dans des entrepôts qui sont arrivés jusqu'au siège à Paris. Et donc, c'est assez peu le cas aujourd'hui, ça arrive assez rarement, mais c'est possible. Et donc, ces gens-là, puisque c'est possible, eh ben, on va dire aux autres, regardez, eux, ils y sont arrivés, donc si vous vous donnez, et eh ben, ça va être aussi possible pour vous. Après, le prix à payer, etc., c'est autre chose. Mais ça reste assez mobilisateur pour un certain nombre de salariés.
Il y a un filtre de classe.
C'est clair. Et aujourd'hui, les gens qui arrivent avec des postes à responsabilité dans l'entreprise n'y arrivent pas sans bac plus 5. Même le fils du fondateur, qui a repris les rênes de l'entreprise, lui-même a fait une grande école de commerce. Il n'est pas passé par les entrepôts et par des postes ouvriers. Aussi parce que dans le monde du transport, il y a une vraie volonté de valoriser ce qui autrefois était considéré comme un milieu manuel, un peu beauf. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire passer ça pour un milieu stratégique de ce qu'on appelle la supply chain. Et donc de valoriser ce milieu en montrant que voilà, c'est aussi un milieu où on a des diplômes, il y a un vrai savoir-faire. Et donc ça passe aussi par tous les codes de la reproduction sociale, des diplômes, de l'anglicisation de tous les termes, d'aller recruter dans des grandes écoles. Voilà.
Qu'entends-tu par la masculinité née de ce qu'on tient pour négligeable, l'incertitude? Il y a des phrases comme ça que j'ai retenues en suspension, parce que je me dis que ce genre de phrase, on peut passer des journées à réfléchir dessus.
C'était le but. C'est le titre d'un des chapitres de mon livre. La masculinité, c'est pas seulement exercer des formes de domination sur les femmes ou sur d'autres hommes, ça naît aussi d'une vraie hantise de l'impuissance. L'impuissance dans la masculinité, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ça a un lien avec à la fois l'impuissance sexuelle, mais aussi économique ou sociale, parce que être un homme, c'est performer quelque part sa masculinité. Il y a toujours une notion de performance. Et quand on est empêché de performer, donc que ce soit par le biais du travail, parce que quand on n'a pas d'argent, parce que sexuellement ça fonctionne pas, etc. C'est une vraie problématique pour les hommes, et c'est vrai que quand on regarde toutes les études sur le chômage, par exemple, on se rend compte que pour les hommes, le fait d'être au chômage, ça a une vraie incidence en termes d'identité, de construction de son identité, en termes de dépression, d'alcoolisme et tout, c'est quand même assez fort, parce qu'on a socialisé les hommes à avoir un rôle en dehors du foyer, alors que les femmes le vivent entre guillemets un peu mieux, parce qu'elles ont été socialisées à avoir une place aussi où elles pourraient s'épanouir au sein du foyer. Donc ça n'a pas du tout la même incidence. Et donc cette incertitude qui est de plus en plus grandissante sur le marché du travail, aujourd'hui, les carrières qui se font dans la même entreprise, c'est quand même très très rare. Donc il y a une forme comme ça de mobilité qui va avec une forme d'insécurité et d'incertitude qui fait que la masculinité va faire douter les hommes de pouvoir exercer leur masculinité, c'est s'assurer qu'ils cherchent à la prouver sans cesse. Et c'est en ça que l'incertitude, ça provoque aussi des formes de domination masculine.
Les hommes d'Henri Tachan, interprété par la chorale à géométrie variable de la Perle.
1, 2, 3. Font leur pipi contre les murs, quelquefois même sur leurs chaussures. Pisser debout, ça les rassure. Les hommes ont leur petit jet horizontal, leur petit siphon, leur de babal, peuvent jouer à la bataille navale. Les hommes ont leur petit sève dans leur culotte. leur petit périscope sous la flotte, ils ont le ballon ou la carotte, les hommes.
Et au nom de ce bout de bidoche qui leur pendouille sous la brioche, ils font de guerre, ils font des mioches.
Les hommes, ils se racontent leurs conquêtes, leurs péripéties de braguette, dans des gros rires à la buvette. Les hommes, ils se racontent leurs guéguerres, leur nostalgie de militaire, une larme à la paupière. Les hommes, virilité en bandoulière,
roulé en bande moltière, agressivité en œillère.
Les hommes,
ils te traiteront de pédé, de gonzesse et de dégonflé, à moins que tu ne sortes dehors cité.
Un homme, j'aime les femmes contre vous, c'est si pervers mais c'est si doux. Enfin,
c'est pas comme nous.
Les hommes, j'aime les femmes à la folie, passive, muette et jolie, de préférence dans le lit. Des hommes,
au baby room ou au boudoir, à la tortore ou au trottoir, j'aime les femmes sans espoir.
Les hommes,
prostituées ou pénélope, apprivoisées ou antilope, toutes les femmes sont des salopes.
Pour les hommes,
c'est en 93, je crois, qu'ils ont tué la femme du roi.
Et la déclaration des droits de l'homme. C'est depuis 2000 ans, je pense, qu'ils décapitent en silence les femmes d'ailleurs et de France. Les hommes ont abattu la tibétaine, ont fricassé les africaines, ont indigné les indiennes. Les hommes
ont mis le voile aux algériennes, la chasteté aux châtelaines et le tablier à Mémène.
Les hommes, excusez-moi, mais elles me grattent, ma pauvre peau de phallocrate, dans la région de la prostate. Des hommes, excusez-moi, mais je me tire, sans un regret, sans un soupir, de votre mafia, votre empire. Des hommes, à chacun sa révolution, aurais-je seulement des compagnons qui partagent l'indignation d'un homme. À chacun sa révolution, aurais-je seulement trois compagnons qui partagent l'indignation d'un homme.
Les hommes, Henri Tachon.
Voilà.
Merci à Audrey Voile, auteure de La Fabrique des Masculinités, livre paru aux éditions La Découverte. Et merci à Christelle Bilan, Anne Wouchou et Laurent Messager, de la chorale à géométrie variable de La Perle, pour leur libre participation à ce programme.
C'est ce qu'on dit souvent aux sociologues, oh, vous n'êtes pas drôle, etc. Bon, alors, malheureusement, ce n'est pas mon boulot d'être drôle, je préférerais, mais j'ai essayé de décrire le plus fidèlement la réalité, et malheureusement, comme je te le disais, la réalité, elle est brutale pour plein de salariés, et en particulier pour plein de femmes aussi. C'était mon boulot d'écrire cette réalité-là et cette brutalité-là. Et il me semble que c'est nécessaire de la décrire précisément parce que c'est le préalable au changement et c'est le point de départ. Et certes, c'est pas réjouissant, mais c'est pour aller vers un mieux.
Le pessimisme, je le plaçais quand tu te projetais en disant « c'est quand même figé pour assez longtemps ».
Alors, c'est figé si on reste dans un système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pas figé si on arrive à changer le système, à être dans un système moins hiérarchique, plus horizontal. Après, voilà, je pense que le capitalisme et la domination masculine et le patriarcat, c'est intrinsèquement lié. Donc, tant qu'on sera dans cette configuration, malheureusement, je vois pas bien de porte de sortie. Mais peut-être que dans un monde où le capitalisme n'existerait pas ou pas sous cette forme, ça pourrait tout à fait avoir sa place. Dans cette conclusion, je fais la distinction entre le féminisme et la sororité. Pour moi, c'est la sororité qui va vraiment permettre de changer les choses. Et la sororité, c'est quoi ? C'est être sur un pied d'égalité et se soutenir les unes les autres. Parce que, enfin, on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de courants dans le féminisme qui ont tendance à s'affronter. Et c'est vrai que la sororité, ça me semble être plus fédérateur. Peut-être parce que c'est moins politique aussi, je sais pas. Mais en tout cas, dans la sororité, je vois pas de relations de pouvoir ou d'hierarchie. Et c'est ça qui fait que ça ne marche pas. C'est les relations de pouvoir et d'hierarchie. Et la solution vient de la sororité, du féminisme bien sûr, mais surtout de la sororité.